Les radios du CRLO, collectif des radios libres d'Occitanie, en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, vous proposent une série de 12 magazines inédits pour découvrir la poésie et la richesse des auteurs occitans. Des Troubadours à Félix Castan, un document radiophonique qui évoque la littérature ou la poésie des auteurs occitans du XIIe siècle à l'an 2000. Des chants courtois au Fabulous Troubadour, un projet du CRLO.
Arenalt e frevengu, ketgeu el neu el afanio, el auselet est amu, cus de chantan un safranio, e sun sec li ramp el plais, ke flur ni feio nu inais, ni rossignol nu ni crido, la ke emaim resido. Tan ai lucor de seu bu, per ke sui a tut estrani sai, ke l'om a perdu mul putur con un gazanio.
Parler de poésie occitane, c'est parler d'une poésie occultée et désapprise, marquée du stigmate et de la réprobation. Dans cette poésie, oubliée parmi les oubliés, interdite parmi les interdits, celle des femmes poètes du Moyen-Âge, appelées Trobaïrits. Celle dont l'histoire a retenu le nom s'appelait Azalaïs de Porcairajos, Béatrice de Dio, Clara d'Anduz ou encore Gaudarenko. Elles ont puisé leur inspiration dans la société de leur temps, l'Occitanie du XIIe siècle, où la langue d'oc était parlée de l'Aquitaine à la Provence et de l'Auvergne au sud des Pyrénées. Après des siècles de dépossession, ce matrimoine occitan reprend vie grâce aux recherches, adaptations et interprétations d'une nouvelle génération d'artistes. Parmi elles, Delphine Aguilera, musicienne, chanteuse et sociolinguiste. Elle a accompagné son interprétation musicale d'une recherche universitaire sur les femmes poètes du Moyen-Âge. Elle s'interroge sur la contribution de ces poétesses à la naissance de l'amour. Anne Deval, conteuse musicale mêlant l'histoire au rêve, s'est-elle plongée dans l'adaptation de textes politiques écrits par des femmes anonymes. Elle nous rapporte une histoire d'audace et d'insoumission.
Et c'est surtout par le biais de la musique et de la poésie que je suis rentrée dans cet univers et qu'elles m'ont acceptée. J'ai commencé à scruter, à lire des textes de poètes femmes, donc des Troubaïrits, et nous les avons mis en musique dans un album qui se nomme « Fin amour ».
Delphine Aguilera.
Elles sont peu nombreuses comparativement aux troubadours. Et c'est surtout ça qui a joué en leur défaveur pendant plusieurs années. Parce qu'il faut vraiment aller chercher les textes des Troubaïrits dans les manuscrits. Elles sont au milieu de multitudes de textes troubadours. Alors, je les évoque dans cet ouvrage que j'ai écrit et qui est paru chez L'Harmattan, Femmes poètes du Moyen-Âge. Troubaïrits, je crois qu'on a enlevé l'article. En fait, c'est des textes qui sont splendides et avec des dimensions à la fois poétiques, mais aussi métaphysiques et philosophiques. Donc, tu vois, on a tout ça déjà dans ces textes-là. Et lyriques, elles expriment leurs sentiments. À la différence des troubadours, qui, eux, pour la plupart, étaient payés pour leur travail, parce que c'était leur gagne-pain, et qui louaient la dame du Seigneur. Tu vois, donc le rapport à la poésie différent, le rapport à l'expression aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé me plonger dans cette lyrique troubadouresque féminine. Elles parlent aussi de leurs sentiments, et ce n'est pas toujours adressé à un autre homme, hein, ne nous égarons pas. C'est vraiment très, très personnel. Elles parlent de leur cœur qui s'émeut, du soleil qui est caché par les nuages, des lozenges, des flatteurs, d'un Finjoy, de la comtesse de Duce, et Finjoy. Elle évoque justement la joie et ce sentiment qui est développé par tous les troubadours et la fine amour, et qui va être vraiment le socle de la poétique troubadouresque, le joy et le juvens. Il y a plusieurs genres littéraires. Tu as l'attention, qui est l'équivalent de la discussion, mais aussi de la dispute, puisque c'est un débat sur ce qu'est l'amour la plupart du temps. Par exemple, tu as Vous qu'en semblats, qui est un très beau texte. Vous qu'en semblats, découvre l'amadoum. Donc, c'est une discussion entre un homme et une femme, troubadour, troubaïritz. Tu as l'alba, qui est un chant de l'aube. Alors là, moi, je n'en connais pas chez les femmes. Tu as le Cervantes, qui est un texte politique très engagé, mais qui va apparaître surtout avec l'arrivée de la croisade contre les albigeois. À cet effet, on a les prémices avec le texte de Gormand de Montpellier, qui répond, je crois, à Guillaume de Figueras, de façon très narquoise. On a essentiellement la canson, qui est la chanson, qui a donné aussi le genre actuel, hein, de la chanson de variété, on peut dire, mais beaucoup plus dépouillée. La danse, donc c'est un chant à danser. À ma connaissance, il y a 5 genres prépondérants dans lesquels on puisait les troubadours et les troubadours. Dans le corpus des troubadours, il y a un texte qui m'a interpellée, qui est signé de... Enfin, c'est toujours le premier vers qui sert de titre. Il n'y avait pas de titre à l'époque de chant. Nacarenza, c'est un texte qui met en jeu 3 personnes. Donc, il dit ceci. Nacarenza, albeo coravinen. Dunas conseianus tua serurum, e cer sabes mietria lumeium, consigliami segons vostre scienz, per amaria vostra conoscenza, ostarei mi pulsela, es imagensa. Dame Carenza, au beau corps avenant, donnez conseil aux 2 sœurs que nous sommes. Et puisque vous savez mieux choisir le meilleur, conseillez-moi selon votre expérience. Dois-je prendre un mari de notre connaissance ou demeurer pucelle? C'est là ce qui m'agrée, car je n'estime pas qu'il soit bon d'enfanter, mais être sans mari me paraît une épreuve, etc. etc. Donc ça, c'est un échange entre ces 3 femmes qui vont évoquer aussi la condition de la femme à l'époque, qui a beaucoup d'enfants ou qui meurent en couche. Son corps est déformé. Bon, je pense que c'est toujours d'actualité, hein, etc. Donc c'est à la fois un champ poétique par le langage utilisé, mais un champ aussi, on ne peut plus, réaliste et bien ancré, comme dirait mon ami, sur le plancher des vaches. Il est anonyme. Il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension poétique, littéraire, c'est-à-dire qu'elles vont reprendre certains termes comme la satch, l'essai, la description aussi du corps, mais assez ponctuelle. Mais ce qui est vraiment différent, je puis dire, de la poésie de leur homologue masculin, c'est dans l'expression des sentiments. Elles vont parler de leurs sentiments, de ce qu'elles éprouvent elles-mêmes, de leur rapport au monde et aux autres personnes dans cet amour-là. Voilà. De façon très métaphorique parfois, elles utilisent des images comme lorsqu'elles évoquent, par exemple, la comtesse Lydie va évoquer sa joie, va dire que rien ne peut cacher sa joie et l'occulter, même pas les flatteurs, parce qu'elle est comme le soleil derrière les nuages, tu vois. Donc, elle se compare au soleil derrière. Mais voilà, c'est une écriture personnelle, je pense, et beaucoup plus personnelle que chez les troubadours qui, eux, vont transposer. Et il y a l'aspect matériel chez les troubadours, même si ils sont dans un rapport poétique. Il y a de très grands poètes, mais eux, ils sont plus dans un rapport au Seigneur. Ils vont louer la dame pour le Seigneur, dans un rapport de vassalité qui est impliqué par les codes de l'époque. La femme, à cette époque-là, surtout dans le sud de la France, n'avait pas du tout la même responsabilité, le même statut que dans le nord. Elle avait de grandes responsabilités. On lui accordait un pouvoir qu'elle n'avait pas dans le nord, mais qui était un pouvoir domanial, un pouvoir peut-être de décision, mais surtout un pouvoir de rapport à la terre. Voilà. Avec un pouvoir décisionnel. Donc, ces femmes-là, même si elles étaient la noblesse, je pense qu'elles peuvent être aussi le reflet d'autres femmes de l'époque, hein, qui n'étaient pas forcément de la noblesse. Gouda Henk n'était pas de la noblesse. Bon, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. La j'avais vraiment envie de faire connaître cette existence de ces femmes-là dans la société et le rôle qu'elles ont joué dans la considération de l'amour, dans l'apport de l'amour en littérature, mais pas que dans nos sociétés aussi, hein, puisque finalement c'est peut-être eux qui ont inventé l'amour, même s'il existait déjà. C'est ce pourquoi je me suis penchée de façon aimante et bienveillante sur les femmes poètes du Moyen-Âge.
Je suis jolie et j'ai tant à souffrir d'être mariée sans envie ni désir. Je vous dirai ce qui fait mon tracas. Je suis jolie, jeune, gentille, j'ai de nombreux apparts.
Je suis jolie
et un mari ne me réjouira que s'il sait jouer, danser et rire. Et mon mari ne me satisfait pas. Jamais l'amour pour lui ne me viendra. J'étouffe de honte quand il est là. Je prie chaque jour pour le voir mourir. Dans mon malheur il y a de la joie. J'ai un amant qui me consolera. Et je sais qu'il ne me quittera pas. Qu'il me manque, je l'aime, je l'admire. Je vous dirai ce qui me va à moi. J'ai confiance en l'amour et ses lois. J'abandonne mes doutes et me voilà prête à vivre pleinement mes désirs. Je chanterai mon histoire à pleine voix pour qu'on l'entende de loin, reprenez-la. Tous les hommes ne sont pas des goujats. L'amour existe et il peut advenir.
Alors, moi, je m'appelle Anne Deval. J'ai fondé la compagnie Cta avec Frédéric Blanco il y a 20 ans maintenant. Et on fait du conte musical. Et notre marotte, on va dire, c'est l'histoire populaire. Pour moi, tout a commencé quand Kate, donc Kate Fletcher, qui est de la compagnie du Paradoxe du Singe Savant, est venue me trouver pour me demander de l'aider de refaire des traductions plus modernes, en fait, des textes qu'on avait retrouvés des Trobaïrites. Parce que quand elle s'est installée à Die, elle a donc trouvé le buste de la comtesse de Die planté dans le square à côté de la mairie. Et on ne peut pas ne pas remarquer qu'il est signé Madame Clovis Hugues et que la sculptrice qui a fait ce buste a été invisibilisée aussi, parce qu'elle s'appelle Jeanne Royanèse. Et que quand cette statue a été inaugurée, c'est les Félibriges qui ont fait un grand banquet où seuls les hommes ont pris la parole, où Jeanne Royanèse était là, mais elle n'a pas pu parler. Et Kate avait envie de remonter, enfin, de faire un projet où on ferait des ateliers d'écriture avec des jeunes filles, parce que les Trobaïrites avaient à peu près entre 12 et 25 ans, et qu'on refasse un banquet où là, les femmes seraient à l'honneur et où on pourrait dire des textes des Trobaïrites du XIIe siècle, faire chanter, parler les jeunes filles avec qui on aurait fait des ateliers d'écriture pour remettre les femmes au centre de cette histoire. Ces textes ont été écrits au XIIIe siècle, mais composés au XIIe. Donc on sait que pendant à peu près 100 ans, ou au moins 100 ans, ils ont été transmis oralement. S'ils ont été transmis oralement, c'est qu'ils étaient connus, c'est qu'ils ont été chantés de génération en génération, parce que 100 ans, ça fait quand même plusieurs générations, et qu'ils avaient quand même donc une place dans cette société. Dans le corpus des Trobaïrites, on a retrouvé 46 textes. Sur les 46, il n'y en a que 44 qui étaient traduits en français. Mais par contre, on les a retrouvés chez Angelica Rigger et chez des Anglaises aussi qui ont fait Songs of Women Troubadours, où on a retrouvé des traductions de ces deux textes-là. Les deux textes qui n'ont pas été traduits sont des Cervantes. Et le Cervantes, moi, c'est une forme qui m'intéresse vraiment, parce que satirique et politique, et j'ai trouvé ça incroyable que les deux textes qui n'étaient pas traduits en français étaient aussi des Cervantes. Quand j'ai regardé les traductions en anglais, je me suis dit, ah, ça a été fait dans les années 70, c'est en plein mouvement féministe. Qui me garantit que dans la traduction de ces textes-là, il n'y a pas un peu d'idéologie de l'époque? Et du coup, je me suis dit que pour en avoir le cœur net, il fallait que je trouve des occitanistes et de retourner à l'origine du texte. J'ai trouvé donc Christian Espinas, qui est un professeur d'occitan de l'Université populaire de Cré, en fait, dans la Drôme. Je suis allée le trouver et lui, il m'a fait une traduction littérale. Et à partir de cette traduction littérale, je l'ai comparée aux traductions qu'avaient fait les Anglaises et j'ai refait tout un travail justement de recherche autour pour proposer des adaptations de ces deux textes-là, mais où j'ai vraiment essayé d'être fidèle à ce qu'elle racontait.
Il ne m'est plus possible de me taire. Je me sens coupable à ne pas parler. Je brise un tabou, ça ne va pas plaire. Mais les poètes du passé ont fait du mal aux femmes avec leurs vers de misogynie exaltée. Ils ont embobiné de braves gens qui se croient bien supérieurs maintenant et qui vont plonger le monde dans une erreur qui pour des siècles fera notre malheur. Ils chantent tout haut tous ces bons trouvères qu'ils sont des amants pleins de loyauté. Qui dit du mal de l'amour dans ses vers n'est pas un amant distingué. Il trompe le monde avec ses manières, un traître à l'amour incarné. Plus il dit ses horreurs ouvertement, plus les gens perdent leur discernement. Nul homme ne saurait trouver le bonheur sans dame à aimer, à couvrir d'honneur.
On sait que souvent Anonyme est une femme. Alors oui, ils sont controversés ces textes-là. Et oui, on m'a dit, oui, mais c'est à se trouve, il y a des énigmes dedans. C'est à se trouve, c'est des troubarclous. Alors les troubarclous, c'est des formes poétiques où à l'intérieur, il y a une codification qui fait que si t'as pas les clés de ces codes, tu peux rien comprendre. Le truc, c'est que dans la traduction littérale, même si j'avais pas de clés de code, j'ai compris ce qu'elle disait. Et que non seulement j'ai compris ce qu'elle disait, mais en plus, ça parlait directement encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'après, c'est vrai que là, on n'est que dans la haute société, mais dans le chant trad, on peut retrouver quand même peut-être des indices de ce qui se passait aussi dans le milieu populaire. Et que moi, je ne crois pas une seule seconde qu'il n'y ait pas eu de trobaïrites et de jongleresses et de poétesses, même dans le peuple, en fait, parce que c'est comme aujourd'hui. Je vois pas pourquoi, on connaît des poétesses de l'Antiquité, pourquoi tout d'un coup les femmes se seraient arrêtées de faire de la poésie. on ne saura jamais. Il y a même un moment, je me suis dit, on n'a même pas le même cerveau pour pouvoir penser ces choses-là. Je veux dire, au XIIe siècle, il n'y avait pas d'ondes, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas la lecture comme on l'a aujourd'hui. Il y avait des mystères incroyables, il y avait des croyances, des superstitions. Il y avait tout un monde, en fait, que je ne peux pas concevoir. Et j'aurais beau essayer de me creuser la tête, et puis c'est un peu ça que moi j'ai cru comprendre aussi en lisant tous les travaux d'historiens et d'historiennes, c'est qu'au final, on ne fait que supputer. Avec le peu qu'on peut retrouver dans les archives et le peu de traces en fait qui nous reste. Donc on suppute et qu'à un moment donné, moi en tant qu'artiste, je vais me détacher aussi de tout ce qui est vraiment l'histoire factuelle et de ce qu'on a retrouvé dans les archives pour rêver. Parce que par contre, je pense vraiment qu'on a des choses inscrites dans notre ADN. Moi, ma famille est d'Occitanie. Mes parents sont des exilés, mais ils ont été obligés de partir à cause du travail. Mais j'ai été élevée dans la nostalgie de l'Occitanie, dans cet amour de ce pays perdu qui était comme un espèce de paradis. Pendant très longtemps, moi, j'ai cru que mes parents y fantasmaient totalement, en fait. Et en travaillant sur les écrits et les travaux des historiens et des historiennes du XIIe, je dis, ben non, en fait, ils n'ont pas fantasmé. Le paraché, c'est vraiment des valeurs de l'Occitanie et ça fait partie des choses que j'ai envie de continuer à transmettre. Et de dire, ben non, en fait, on n'a pas toujours été sans le paraché. On a eu le paraché, je sais pas, la noblesse de cœur. Je veux dire, c'est les valeurs, en fait, les grandes valeurs de l'Occitanie.
Na Maria, Prez e fina valos, el gioi, el sen, e la fina beutaz, e la cugli, el prez e la sonors, il tient parla, e la vinen solaz, e la douce cara.
Quelque part, elles étaient dans un monde patriarcal, tout le monde le sait, c'était patriarcal, mais elles n'avaient pas encore été abîmées au point où on l'a été après. C'est que j'ai l'impression qu'on n'avait pas le même degré de soumission et que dans les textes qu'elles ont laissés, on entend l'impertinence, on entend la liberté de ton, on entend qu'elles ont la tête haute, qu'elles se laissent pas faire, qu'elles savent reprocher à leur amant de ne pas être fidèle. Elles ne sont pas soumises comme on l'a été après, en fait. Il y a même certaines historiennes qui disent qu'on était au même niveau d'émancipation féminine au XIIe qu'aujourd'hui. Et que l'histoire de l'émancipation féminine, c'est hauts, des bas, on avance, on recule, on avance, on recule. Et que c'est quand même très intéressant de pouvoir rappeler aujourd'hui aux contemporaines, en fait, tout ce qui a été gagné a été perdu, regagné, reperdu, regagné, et qu'il ne faut pas qu'on lâche et qu'on n'oublie pas, en fait.
Composed by a woman and addressed to him, it requires a special edition not only to the Indians of Tilbury, but within the entire Occitanic choice of Falcon. Since the troubadour typically speaks to the donna, it's clear that the inversion of this configuration could be a different.
Un grand merci à Anne et à Delphine de m'avoir emmenée avec elles dans ce voyage poétique et politique à travers les âges. Vous trouverez l'interprétation des Trobaïrits dans l'album Finamour, avec Delphine Aguilera au chant, Marc Belliti au sistre et à la mandole, et Mathias Autexier aux percussions. Son livre, Les Trobaïrits, femmes poètes du Moyen-Âge, est édité aux éditions L'Harmattan. Son dernier album, Primavera, comprend également des chants de Trobaïrits. La compagnie CTA, composée d'Anne Deval et Frédéric Blanco, joue actuellement et pour la saison prochaine son spectacle « Ce que tu croyais faire de moi », consacré aux histoires de femmes du XIIe siècle.
Existe-t-il d'ailleurs une écriture de
Un grand merci à Kate Fletcher de la Compagnie du Paradoxe du Singe Savant, dont nous avons diffusé tout au long de l'émission les œuvres composant son superbe album Béatrice 2021, disponible à l'écoute sur Bandcamp et en vinyle.
Des troubadours à Félix Castan, un document radiophonique qui évoque la littérature ou la poésie des auteurs occitans du XIIe siècle à l'an 2000, proposé par le collectif des radios libres d'Occitanie, en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.